RJB Info, le journal, Idiane Guena, bonsoir.
Bonsoir. Séances virtuelles et vote à distance, des mesures exceptionnelles qui seront désormais possibles pour le Grand Conseil bernois. Les députés ont accepté de modifier la loi sur le Grand Conseil en ce sens cet après-midi. La votation d'hier sur la loi Covid pourrait révéler une fracture entre les générations, selon une enquête menée par 36 Minuten et Tamedia. Mais les chiffres sont à prendre avec des pincettes, selon le politologue Marc Bühlmann. Les automobilistes qui rentrent dans le canton de Neuchâtel à partir de Berne vont devoir lever le pied. Un nouveau radar fixe a été mis en service aujourd'hui sur l'autoroute A5 dans l'échangeur de Thiel. Météo, la nuit devrait être assez calme. Demain, le ciel sera assez dégagé en matinée avant le retour des nuages et des averses en milieu de journée. La limite de la neige pourrait remonter vers 800 mètres d'altitude. Avant de développer ces titres, le corps électoral bernois devra se prononcer sur l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Le Grand Conseil a accepté cet après-midi en deuxième lecture cette extension des droits politiques par 90 voix contre 58. Le Grand Conseil bernois toujours, qui doit pouvoir fonctionner normalement même en temps de crise. Les députés ont accepté cet après-midi à l'unanimité, une révision de la loi sur le Grand Conseil. Une loi inspirée évidemment de la situation actuelle et qui a pour but de donner au Parlement les outils pour poursuivre son travail dans des situations exceptionnelles. Concrètement, le bureau aura la possibilité de mettre en place des séances virtuelles ou encore d'organiser le vote à distance. Une bonne décision selon la députée du PSA, Morane Riesen.
Cette loi était indispensable, elle était surtout très importante parce qu'on a vu que s'il y a des situations particulières comme cette pandémie, mais qui peut arriver sous une autre forme, ou d'autres situations particulières qui peuvent demander justement d'adapter un peu le type de séance et de pouvoir quand même permettre un débat parlementaire dans d'autres conditions. Et on l'a vu quand plusieurs personnes étaient en quarantaine lors d'une dernière session, c'est compliqué et le processus démocratique n'est pas forcément garanti si on exclut certaines personnes. Donc d'avoir cette flexibilité et d'inclure ça dans le règlement, c'est une très bonne chose.
Une séance virtuelle ou bien des votes par distance, ça n'enlève rien à la qualité du débat?
Ça ne restera pas la norme. C'est plus qu'en situation particulière, quand une alternative n'est pas possible, qu'on fera ce genre de situation. C'est sûr qu'on préférera quand même des débats comme actuellement au sein du Grand Conseil des sciences physiques. C'est comme ça la norme. Après, de pouvoir le permettre dans certaines situations, Ben, c'est utile en fait, ça pallie à un manque.
Morane Riesen répondait à Olivier Zano. Au vu du contexte actuel, la loi révisée entrera en vigueur au prochain changement de législature, soit le 1er juin 2022. Autre décision du Grand Conseil cet après-midi, le port du masque est désormais obligatoire pour les députés pendant cette session d'hiver. Ils ont adopté aujourd'hui sans opposition une motion d'ordre en ce sens. Les députés sont seulement autorisés à enlever le masque quand ils prennent la parole à la tribune. L'urgence pandémique, c'est d'endiguer la cinquième vague de contamination au variant Delta du coronavirus et de tout faire pour retarder l'arrivée du variant Omicron. Telle est la stratégie présentée aujourd'hui par l'Office fédéral de la santé publique à Berne. Un durcissement des mesures a été opéré pour les voyageurs provenant des pays touchés par Omicron. Le point avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Difficile de savoir si l'arrivée du variant Omicron est inquiétante. À entendre les spécialistes de l'Office fédéral de la santé publique cet après-midi, on saura demain si le cas présumé d'une personne revenue en Suisse en provenance d'Afrique du Sud est avéré. On ne sait pas grand-chose d'Omicron, reconnaît Patrick Matisse. Il est possible que sa transmissibilité soit plus forte que celle du variant Delta, estime la présidente de la Task Force, Tania Stadler, en s'appuyant sur les constats faits en Afrique du Sud. Mais on ne sait pas s'il provoque des cas graves de maladie et si le vaccin protège comme face au Delta. L'urgence, disent les experts, c'est d'endiguer la situation critique de la cinquième vague au variant Delta. Près de 20 000 nouvelles infections ces trois derniers jours, avec 155 hospitalisations et désormais 219 malades du Covid aux soins intensifs. C'est cela qui est inquiétant pour la directrice de l'OFSP, Anne Lévy.
Oui, il faut faire attention pour le moment parce que c'est le virus qui circule, mais ça c'est le virus Delta. Les restrictions de voyage, c'est contre Omicron. Mais tout ce qu'on fait ici, toutes les mesures comme le port des masques, la vaccination et aussi les distances, les règles d'hygiène, tout ça, on fait contre Delta. Et c'est le plus important pour le moment de vraiment baisser les chiffres qui sont en train maintenant de se doubler toutes les deux semaines, si je suis bien informée.
La stratégie de l'OFSP, en attendant de possibles mesures du Conseil fédéral vendredi prochain, endiguer l'actuelle vague et retarder l'arrivée d'Omicron. L'espoir de cette stratégie, que Delta ait réduit ses ravages pour permettre ensuite de gérer au début 2022 Omicron. Alors dit-on à l'OFSP, de manière inlassable, en plus du port du masque à généraliser, mais c'est de la compétence des cantons, il est plus nécessaire que jamais de se faire vacciner et de s'annoncer pour la troisième dose pour celles et ceux qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois.
La votation de ce week-end sur la modification de la loi Covid serait-elle révélatrice d'une nouvelle fracture entre les générations? C'est ce que laisse entrevoir une enquête menée par 20 Minuten et Tamedia auprès de 33 000 personnes. Elle montre que les 18-34 ans auraient voté contre la modification de la loi Covid, contrairement au reste de la population. Des résultats intéressants, mais qu'il faut interpréter avec prudence, selon le Kurgis Mondain Marc Bullmann, directeur de l'année politique suisse à l'Institut des sciences politiques de l'Université de Berne.
Il faut savoir que ces sondages-là, ça s'appelle des sondages opt-in, donc on ne prend pas juste un échantillon par hasard de toute la population, mais on demande aux gens qui lisent les 20 minutes ou bien Tagesanzeiger, tous ces journaux-là, s'ils veulent prendre part à des enquêtes comme ça. Et puis ce n'est pas vraiment tiré par hasard, donc il faut être très très prudent avec ces résultats. Mais bien sûr, il faut savoir que ces sondages, ils ont comme des méthodes assez sophistiquées. Ils essaient avec des méthodes statistiques de quand même pondérer l'échantillon pour d'une façon que ce serait quand même un petit peu plus représentatif. Et puis si on regarde les sondages avant les votations, on peut comme garder est-ce qu'ils avaient raison ou pas. Ça, c'était pas mal. Donc, ils sont peut-être pas très, très, très loin de la vérité, mais on peut quand même pas savoir, parce qu'il y a plein d'hypothèses derrière cette pondération, on peut quand même pas savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, comme scientifique, je dis, les résultats sont super intéressants, mais il faut être très, très, très prudent avec les interprétations.
L'entretien complet avec Marc Bullmann est à retrouver sur rjb.ch. Le stationnement sera bientôt payant au Pré d'Orvin. L'association créée cet été spécialement pour gérer le parking a présenté le projet d'installation d'horodateur jeudi dernier. Un projet qui avance donc gentiment. La demande de permis de construire est faite, mais l'association Parking Les Prés d'Orvin n'a pas encore reçu l'aval de la préfecture. Les horodateurs ne seront installés qu'au printemps prochain. L'APO a donc dû trouver des mesures provisoires pour cet hiver en collaboration avec les téléskis et le centre nordique. Les explication d'Arthur Baltz, conseiller municipal d'Orvin en charge de l'urbanisme et du tourisme.
On va quand même prendre en partie en main la gestion des parkings, l'APO, et puis les week-ends d'affluence et puis les semaines de vacances, on va mettre à disposition du personnel sur place. On va organiser le déneigement et donc on va pouvoir un peu mieux gérer que ce qui se faisait jusqu'à maintenant, les grosses affluences pour l'hiver. Et donc, nous, APO, on gérera une partie des parkings. Tout ce qui concerne les parkings gérés jusqu'ici par les téléskis va rester géré par les téléskis. Et de la même manière pour le centre nordique. Et puis nous, on va pouvoir entretenir et organiser les parkings à l'entrée des Prés d'Orvin, donc les parkings Bellevue.
C'est pas encore la solution que vous espérez, mais c'est quand même un chemin.
On a une solution provisoire. C'est-à-dire que, comme on a pas mal de problèmes de trafic à Orvin, l'hiver dernier, on a dû fermer la route 5 fois, sauf erreur. Et donc, c'est un gros problème pour les habitants d'Orvin. Lorsque la route est fermée, c'est tout le village qui est bloqué. Et donc, le but, c'est d'avoir quand même des agents sur place qui peuvent justement mieux gérer l'afflux de voitures et donc limiter le risque de fermeture de la route. Donc, c'est notre objectif cet hiver, de pouvoir quand même avoir une présence sur le terrain pour limiter les risques de fermeture.
Un nouveau radar fixe sur l'A5. L'installation a été mise en service aujourd'hui sur la bretelle d'entrée de l'autoroute entre Thiel et Marin, direction Lausanne. Le dispositif de contrôle a pour but de faire respecter la vitesse fixée à 40 km/h. Les 22 accidents recensés dans le virage ces deux dernières années ont poussé les autorités neuchâteloises à placer ce radar. Olivier Floic, porte-parole de l'Office fédéral des routes.
après un certain nombre d'accidents précisément dus à un manque de respect de la limitation de vitesse, on a déjà ramené la vitesse de 60 km/h à 40 km/h. Et malgré cet abaissement de vitesse, eh bien on a constaté qu'il y avait toujours des accidents. Et aujourd'hui, donc, la mise en place de ce radar répond à une seule demande, c'est simplement faire en sorte que les automobilistes puissent respecter le 40 km/h dans cette bretelle d'entrée dont la géométrie est compliquée, il faut le reconnaître.
La géométrie est compliquée, est-ce qu'elle aurait pu être faite un tout petit peu différemment en fait ?
Alors très clairement, hein, et puis on est toujours plus intelligent après, on aurait dû faire différemment. Mais l'infrastructure existante, elle est là, elle est là pour perdurer, et donc nous sommes amenés à prendre toutes les mesures qui vont permettre précisément d'éviter d'avoir des accidents sur cette zone.
Ce radar, il a un coût ?
C'est un radar qui représente un investissement d'environ 150 000 francs. Encore une fois, ça fait partie des infrastructures de sécurité qu'on met en place, au même titre que des glissières de sécurité par exemple. Et tout, c'est la raison pour laquelle c'est effectivement entièrement la charge de la Confédération.
Des propos recueillis par Yann Esler. Alors que le radar est situé en bordure d'une route nationale, sa gestion ainsi que les amendes d'ordre seront la responsabilité de la police neuchâteloise. L'inflation s'emballe en Allemagne. Elle atteint son niveau le plus haut depuis 1992, soit 5,2% sur un an. Ce chiffre publié aujourd'hui provient d'une haute responsable de la Banque Centrale Européenne. Cette augmentation des prix en Allemagne est principalement due à une hausse des coûts de l'énergie et des pénuries de marchandises dans certains secteurs.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h12.
Sport. Le conseil de l'association suisse de football a approuvé la réforme structurelle des différentes catégories de jeux du championnat. La Promotion League et la Première League compteront ainsi plus d'équipes à partir de l'exercice 2022-2023. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'ASF. Il y aura ainsi deux équipes supplémentaires en Promotion League où évolue le FC Bienne, soit 18 contre 16 actuellement. Le nombre d'équipes sera également adapté de manière progressive en deuxième Ligue interrégionale. Et le Paris Saint-Germain doit composer pendant 6 à 8 semaines sans Neymar. L'attaquant brésilien souffre d'une entorse à la cheville gauche avec lésion ligamentaire, selon une annonce faite aujourd'hui par le club de football français. Il devrait être rétabli à temps pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à la mi-février. L'information revient à 18h30. Je vous souhaite une très belle soirée.